gardons-nous des jugements et de l'échafaudage de scénarios.
Oui.
Il y a trop d'éléments mystérieux encore.
Voilà.
Trop de réponses qui... c'est-à-dire trop de questions. Et il n'y a toujours pas de réponse sur des choses très précises. De là l'importance pour les policiers, j'en suis sûr, de vouloir retrouver Martin Carpentier vivant.
Oui.
Pour qu'on puisse essayer d'avoir un élément, une reconstitution des événements des 5 derniers jours. Vous vous rendez compte? Le docteur Gilles Chamberlain est avec nous. Docteur Chamberlain, bonjour.
Bonjour.
Je vous amène sur, justement, cet aspect médical, parce que je l'ai abordé, docteur Chamberlain, avec M. Savard, l'ancien directeur général adjoint de la Sûreté du Québec. J'ai adressé également la question à François Doré, un ex-policier de la Sûreté du Québec. Cet homme qui est traqué en ce moment, dont on ne sait pas s'il est encore vivant, il a des besoins fondamentaux. Il est probablement dans une situation de stress extrême depuis 5 jours. Il a besoin de manger, il a besoin de boire de l'eau. Donc, écoutez, c'est une situation là qui est vraiment nous porte à croire qu'il devrait y avoir un dénouement quelconque dans les prochaines heures, peut-être.
Absolument. Mais il y a comme deux cas de figure, là. Et cette histoire-là est très, très étrange parce que ça rentre pas dans les deux cas de figure auxquels on est habitué de voir ce genre d'événement-là. Le premier cas de figure, puis c'est ces deux cas, c'est deux possibilités qui s'excluent presque une l'autre. Un parent qui va kidnapper un enfant, dans certains cas, il n'a pas l'intention de le tuer. C'est parce qu'il veut, dans une espèce de pensée magique, refaire sa vie avec cet enfant-là. On pense à Fredette qui était partie avec son enfant, une espèce de pensée magique qu'elle allait se retrouver à l'étranger, qu'elle allait refaire sa vie, que tout ce qui lui restait, c'était l'enfant. Donc, à ce moment-là, le parent qui va kidnapper en espérant l'amener à l'étranger, n'a pas l'intention de tuer ses enfants. Il va agir d'une certaine façon, puis il y a des éléments qu'on retrouve, là. Quelqu'un qui a l'intention de tuer ses enfants, on dit qu'il y avait de la crème glacée dans l'auto où il y a eu l'accident, il ne va pas acheter une crème glacée juste avant, il ne fera pas ce genre de geste-là. L'autre cas de figure, c'est quelqu'un qui est profondément déprimé, qui veut se suicider et qui veut amener ses enfants avec lui. Encore là, pour quelle raison? Parfois, c'est un peu religieux, là, pour pas partir tout seul, puis avec, je dois partir avec mes enfants pour qu'ils soient avec moi. Malheureusement, il y a souvent beaucoup de colère parce on se dit, si moi je meurs, je les laisserai pas, puis on veut faire du mal à l'autre. Des fois, c'est un mélange de tout ça. Mais ici, ce qui est étrange, c'est qu'habituellement, quand quelqu'un a l'intention de tuer ses enfants, ça se passe rapidement. C'est pas pour rien qu'on dit que les alertes Amber, faut retrouver la personne rapidement, parce que souvent, ça va se passer sur les lieux même, on n'en parle pas longtemps, ça fait les manchettes 24 heures, c'est un drame où on va dire, mais un individu s'est suicidé, a amené ses deux enfants avec lui, et on l'oublie malheureusement trop rapidement. Dans ce cas-ci, ça s'est étendu, il les a pas tués sur le coup, et on répète souvent, des fois, ils vont vouloir se déplacer à un endroit, parce que dans leur plan, ils veulent faire ça à un endroit précis, mais ici, ça s'est étendu sur une assez longue période, et c'est étrange, les enfants ne seraient pas décédés au même endroit un l'autre. Écoutez, c'est vraiment étrange. Si on retient cette hypothèse-là, c'est clair que l'individu demeure extrêmement suicidaire, et s'il se sent trop traqué, et comme vous dites, là, s'il se sent trop épuisé parce qu'il n'a pas mangé, il n'a pas dormi, le risque suicidaire augmente proportionnellement.
Et mettons, parce qu'encore là, je veux faire preuve d'extrême prudence, supposons que Martin Carpentier ne sait pas encore là que ses deux enfants sont décédés. Il faut quand même garder ça comme étant une hypothèse, quoiqu'elle semble évidemment très faible. Ce que je veux dire par là, docteur Chamberlain, c'est que comme nous n'avons pas cette explication-là, lui par exemple, il doit se savoir traqué. Est-ce que vous croyez qu'il est plus vers la fuite ou encore il sent la faim, en ce sens que les policiers disent il ne faut pas qu'il y ait un accès à un véhicule pour pas qu'on revive une situation à la Fredette où malheureusement M. Lacasse était décédé, s'était fait voler son véhicule et que le suspect était parti en cavale. C'est la dernière chose que les policiers de la Sûreté du Québec veulent avoir en ce moment, c'est que Martin Carpentier, 44 ans, prenne le large.
Vous avez tout à fait raison. Si on est dans la première hypothèse, parce que comme vous dites, on n'en sait pas beaucoup, on ne sait pas comment les fillettes sont décédées. On sait que les conditions météorologiques étaient atroces, il fait extrêmement chaud, c'est extrêmement humide. S'il avait voulu les laisser à un endroit en disant « je viens vous rechercher », ils seraient décédés justement à cause d'un manque de nutriments presque déshydratés, ça serait atroce. Est-ce que lui pense que ses fillettes, j'imagine qu'il n'y a pas de moyen de communication, est-ce qu'il espère encore aller les rechercher ou il pense que quelqu'un les a trouvées, sont en sécurité? Tout est ouvert, on ne sait pas comment elles sont décédées. Mais ce qui peut le motiver, c'est peut-être ça, l'idée de retourner les chercher. Par contre, s'il est suicidaire, comme on disait, plus le temps passe, plus il s'affaiblit, plus il devient souffrant, donc plus ce risque-là augmente. Dans le cas de Fredette, c'était différent parce qu'on avait quelqu'un qui s'était dit « j'ai plus rien à perdre, je peux me permettre n'importe quoi pour m'en sauver » et c'est là qu'il y avait eu un mort supplémentaire. Ça serait le pire scénario.
Docteur Chamberlain, il y a beaucoup de gens qui se posent la question ce matin. On le voit ici sur nos réseaux sociaux, des gens qui disent « pas encore une fois, pas encore une fois » et qui se disent « y a-t-il moyen de prévenir ?» Je fais appel à votre expertise. Prévenir, ça doit être extrêmement difficile, en ce sens que vous avez des gens qui, pour d'autres personnes, ça peut être des voisins, des collègues de travail, des membres de votre famille qui disent « Ah, il passe un mauvais moment, la personne passe un mauvais moment, mais nous n'avions pas d'indice. » Regardez un peu le cas Turcotte. Turcotte, dans l'après-midi, travaille, il fait son travail de médecin à l'hôpital. Et personne ne semble voir venir l'effroyable drame qui allait suivre.
Vous avez tout à fait raison. C'est déjà insupportable pour les familles et les proches. La perte de ces deux enfants-là, combinée à tout le stress avant d'avoir les nouvelles, les études montrent maintenant qu'un trouble de stress post-traumatique, on peut développer ça, même si on n'a pas été témoin de l'accident. Juste à l'imaginer, ça peut nous hanter. Fait que déjà, les proches vont avoir quelque chose à vivre pour essayer de faire le deuil de ça, qui est presque impossible. Faudrait pas qu'en plus, ils se culpabilisent de ne pas être intervenus. En rétrospective, tout le monde va trouver des indices qui vont interpréter comme « j'aurais pu faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pu faire quelque chose ». Écoutez, ça souvent, c'est moins prévisible qu'on le pense.
Alors ça, je vous arrête juste un instant, parce que là, évidemment, entre une évaluation psychiatrique, ce qui est votre métier, Gilles Chamberlain et vos collègues, ce que vous nous dites en ce moment, c'est que les gens autour d'une personne qui, disons, est gravement malade, là, ça va pas bien dans sa vie, ne peuvent pas nécessairement avoir des indices qui permettraient la prévention d'un drame.
Absolument. Fait qu'il faudrait pas que ces gens-là se culpabilisent en plus de vivre tout ce qu'ils ont à vivre. Faut être modeste aussi. Vous dites, on est psychiatre, on a tous les outils et parfois, on s'en fait passer. Quelqu'un qui veut donner une impression de normalité, il y a même des gens qui entendent des voix et on l'apprend juste par après. Les gens sont capables de cacher les choses, de donner une impression de normalité. Quelqu'un qui a vraiment l'intention de se suicider, l'annoncera pas avant. Cherchera pas de l'aide. On va retrouver un message écrit puis le geste va être fait. Donc, c'est pas vrai qu'on peut toujours prévenir. C'est sûr que si on a un indice, on est mieux d'être plus prudent que moins. On est mieux de faire évaluer quelqu'un, d'avoir fait perdre 24 heures de sa vie contre son gré, que de citer quelque chose comme ça. Et, idéalement, on aurait 10 évaluations pour rien si on peut prévenir un geste comme celui-là.
Oui, mais Dr. Chamberlain, est-ce que la loi ne prévoit pas que vous ne pouvez pas prendre les devants et dire, non, vous seriez mieux de le garder sous observation ou encore il devrait être isolé de la société. Cette personne-là a des droits fondamentaux, comme on dit.
Vous touchez un point. Malheureusement, selon la loi, de la manière qu'elle est faite, il faut être capable de démontrer un danger. Il faut être capable de démontrer un danger grave et immédiat pour contraindre quelqu'un. Ou si on passe devant un juge, le niveau de danger ne doit pas être aussi intense, mais il faut au moins démontrer un danger. Fait que si on n'a pas suffisamment d'éléments pour démontrer un danger, on ne peut pas amener quelqu'un à être évalué de force.
Voilà.
C'est comme ça. C'est tout est basé sur le danger. Et je le répète, les gens qui ont un plan bien arrêté démontreront pas de danger comme ça. Là.
Docteur Chamberlain, on fait toujours le même exercice quand survient ce genre de drame. En général, je dis bien en général parce qu'on a vu quand même que des femmes ont tué un ou des enfants. On l'a vu aussi dans le passé. Oui. En général, ce sont des hommes qui sont impliqués dans ces drames effroyables. Et puis, je vous pose la question. quelle est l'efficacité des services qui sont en place? Parce que le premier réflexe, c'est de dire, vous savez, quand ça ne va pas bien, et ça s'adresse souvent à des pères, à des hommes, des conjoints, il y a des lignes d'écoute, il y a des ressources et tout ça. Vous les voyez, les ressources? Écoutez, vous êtes directement sur le terrain. Est-ce que ces ressources-là sont efficaces et peuvent justement prévenir peut-être des gestes ultimes?
Écoutez, les ressources, lorsqu'on les utilise, elles sont efficaces et elles sont plus accessibles qu'on pense. Aller à l'urgence avec des idées suicidaires, on va être vu rapidement. C'est pas vrai. Normalement, là, de la façon dont le triage est fait, j'ai des idées suicidaires, je suis en danger. On ne fera pas attendre 3-4 heures dans la salle d'attente, c'est pas vrai. Il y a des ressources qui existent, il y en a, et ces gens-là sont compétents. Malheureusement, il y a deux catégories de personnes qui les utiliseront pas. Ceux pour qui le plan est bien arrêté, à ce moment-là, ces gens-là ne veulent pas être arrêtés dans leur démarche, et ceux qui sont trop souffrants pour être capables de le demander. Là, on parle de psychose, des gens qui entendent des voix, qui sont très intoxiqués, sont même pas assez bien pour réaliser à quel point ils sont souffrants puis ils sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Mais pour tous les autres, les services existent, ils sont efficaces et il faut pas hésiter à les utiliser.
Vous en avez vu des cas, Dr Chamberlain? Je reviens toujours à hommes. Ça peut arriver, évidemment, sans distinction de sexe, mais vous en avez vu, Dr Chamberlain, des gens qui étaient dans un état, là, extrêmement, extrêmement graves et qui ont pu avoir ressources, qui ont pu trouver de l'aide rapidement et qui, par la suite, ont été capables de porter un jugement sur cet épisode douloureux de leur vie?
Ah, absolument, absolument, oui, mais plusieurs. Et comme on le dit, une fois que ça s'est bien passé, une fois qu'on a pu faire la prévention, on ne sait pas jusqu'où ça aurait pu aller. Et les cas les plus graves, c'est ceux qui combinent une souffrance de maladie, dépression ou autre avec l'intoxication. C'est clair que la première chose dans ces cas-là à faire, c'est de ne pas aller s'intoxiquer avec de l'alcool ou des drogues. Ça potentialise le problème. Mais des gens qui, à la dernière minute, qui avaient écrit des lettres, qui avaient des plans précis, plus suicidaires souvent, mais des fois suicides élargis, qui ont pu être aidés, il y en a beaucoup, oui.
Ce qui est dommage, plus que dommage, je reprends, j'efface ce que je viens de dire. Ce qui est tragique, c'est que dans ces cas précis, comme celui qu'on a vu hier, ce sont des êtres humains les plus vulnérables. On a beaucoup parlé, en période de pandémie, des premières victimes qui ont été des gens du troisième âge, des gens âgés. Mais la vulnérabilité des enfants, Dr Chamberlain, est totale dans ce genre de situation.
Absolument. La dépendance par rapport aux adultes les empêche d'avoir une espèce de liberté puis une espèce d'autonomie. Ils doivent suivre. Ils suivent les gardes, ils suivent tout ça. Et si un parent dit « on s'en va là, on fait ça », bien, ils vont suivre. C'est des victimes pures.
Et oui, parce que même l'État n'a pas de moyens. On dit souvent, bon, l'État veut protégeons nos enfants. Le premier ministre s'est exprimé clairement là-dessus, la vice-première ministre hier. Nous allons parler dans quelques instants, la ministre Isabelle Charest. Mais qu'est-ce qu'un gouvernement peut faire? Ce que je veux dire par là, c'est que la ligne de démarcation dans des situations extrêmes, et vous le voyez vous-même en tant que psychiatre, Dr Chamberlain, dans une institution comme Pinel, la ligne de démarcation, là, elle n'est pas claire et elle n'appartient pas nécessairement à l'État, ou encore à la police, ou encore aux voisins, et même la famille, quoi.
Effectivement. Et encore là, il y a toute une panoplie de cas, là. Quand on pense au drame de Granby, c'est clair que tout le monde l'avait vu, tout le monde s'était fié sur l'instance d'à côté pour prendre des mesures, personne n'avait agi, ça évolue jusqu'à temps qu'une fillette meure. Et ça, on peut faire des enquêtes puis regarder où est-ce que le système a dérapé. Et c'est pas juste une personne qui est responsable. Le système est quand même bien fait, là. Il y en a des filets un peu partout. Et pour que tous ces filets-là soient inopérants, des fois, c'est parce que tout le monde se fie sur l'autre, finalement, personne ne fait rien. Par contre, il y a des cas qui sont assez impulsifs, là. Le cas de Fredette, par exemple, chicane de couple qui dégénère à l'extrême. Et là, décision de M. Fredette de fuir tout ça. C'est très difficile de faire de la prévention.
Exact. C'est là qu'arrive ce sentiment d'impuissance pour tout le monde. C'est beau de lancer tous les moyens à la disposition de personnes désespérées, mais vous l'avez très bien exprimé, Gilles Chamberlain. L'être humain est ainsi fait que on ne connaît peut-être pas, même vous, psychiatre, l'état de détresse et les gestes qui peuvent être posées même de façon inopinée, c'est-à-dire sans réflexion, sans un plan précis, quoi.
Et j'ajouterais même que la personne elle-même, des fois, ne réalise pas à quel point elle est en détresse. Il y a des gens suicidaires qui demeurent convaincus qu'ils doivent mourir parce qu'ils n'ont pas d'avenir, parce qu'ils ne valent rien, parce qu'il n'y a pas d'espoir, et ils sont convaincus de ça. Et ils ne réalisent pas que c'est la maladie qui s'est infiltrée graduellement qui leur a fait voir la vie avec des verres fumés opaques. Et ils sont convaincus que c'est la réalité. Et on a beau leur dire « Non, vous pouvez aller mieux », ces gens-là eux-mêmes ne réalisent pas la détresse qu'ils portent et considèrent que c'est la réalité.
C'est intéressant ce que vous dites, Dr Chamberlain, parce que moi, j'aurais pas cru. On a toujours l'impression que quelqu'un qui est en détresse peut, tu sais, qu'on va deviner, qu'on va savoir, qu'il va avoir un. Puis on se le dit après. C'est après qu'on voit les signes. Parce que vous dites, il faudrait pas que les proches se sentent coupables de ces tragiques événements, en plus de devoir vivre les pertes. On devine pas toujours la détresse de l'autre. Mais après, le problème, c'est qu'après, on a l'impression de l'avoir, là. On va avoir tu sais, certainement que les familles vont dire, il avait fait ça. Peut-être qu'après, on a ce sentiment de découvrir, puis là, on se sent pas bien.
Mais non, sans coupable, mais c'est ça qu'il faut éviter. C'est dans la mesure où on pense, par exemple, à la mère des enfants. C'est sûr que quand on est de bonne foi, quand on est quelqu'un de bien, on prête les mêmes intentions aux autres. On peut pas imaginer que notre ex va faire quelque chose comme ça. On peut pas imaginer qu'il va penser ça. On projette ce qu'on pense chez les gens. Fait que si on veut le bonheur des autres, bien on va présumer que notre conjoint veut le bonheur de nos enfants aussi. On va présumer ça. Et ça reste quelque chose de sain quand même aussi. Là. On peut pas devenir parano puis voir des problèmes partout. Les enfants vont finir par en souffrir si on agit comme ça aussi.
En même temps, docteur Chamberlain, vous répondez à une question que j'allais vous poser. Réflexe malsain de pointer du doigt, de trouver des boucs émissaires. Tout de suite, et vous devinez ma démarche, dire pourquoi la mère biologique a permis au père de circuler, d'aller prendre une crème glacée un soir avec ses deux enfants. Je dis réflexe malsain parce que probablement, docteur Chamberlain, elle n'avait pas de raison.
Exactement, et probablement que c'est une mère qui veut ce qu'il y a de mieux pour ses enfants.
Voilà.
Qui veut que ses enfants aient un bon lien avec leur père, qui veut l'harmonie et qui va prôner l'harmonie en faisant des gestes de bonne foi comme ceux-là. C'est l'exemple qu'elle donne. C'est pour ça que je disais que, en bout de ligne, la personne responsable, c'est celle qui agit. Des fois, elle est intoxiquée, des fois, elle est malade, donc on peut comprendre, mais en bout de ligne, la personne qui agit. Et si cette personne-là décide de ne pas donner d'indices ou très peu, ça sert à rien de se culpabiliser. Là. C'est pas vrai qu'on peut tout prévenir tout le temps si la personne est fondamentalement de mauvaise foi et veut pas donner d'indices. Dans ma carrière, heureusement, j'ai pas beaucoup de patients qui se sont suicidés. Mais j'en ai un, entre autres, dont je me souviens, et c'était imprévisible. Tout le monde, moi le premier, je l'avais vu, ça commençait à aller mieux, et c'est un suicide, il avait laissé sa lettre, il était prêt. Fait que les individus qui veulent pas donner d'informations, qui sont vraiment décidés, ça devient extrêmement difficile, et l'entourage doit pas à se culpabiliser en plus des deuils qu'ils ont à faire.
Merci beaucoup de votre collaboration, Dr Chamberlain.
C'est un plaisir.
Merci. Gilles Chamberlain, psychiatre, et lui aussi, donc, en conclut, qu'est-ce que vous voulez, dans des situations dont on ne maîtrise même pas toute l'information en ce moment.
Surtout pas.
Et les policiers à qui nous avons parlé, les ex-policiers, disent le but des recherches, là, elles doivent, en ce moment, malgré la douleur de l'événement comme tel, retrouver le principal suspect dans l'affaire. Martin Carpentier, 44 ans. On veut le retrouver, on veut l'arrêter, on veut l'interroger, très certainement, donc on veut le retrouver vivant. Et c'est l'objet de toutes les recherches. Nous allons faire une pause. Il y a eu des réactions politiques à tous les niveaux suite au drame. Le premier à se manifester hier a été le premier ministre du Québec, François Legault. Ensuite, Mme Geneviève Guilbeault, vice-première ministre, ministre responsable de la sécurité publique. Ce matin, aussi, un message de sympathie à la famille du premier ministre Justin Trudeau.